mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce 13 mai. Aujourd'hui, on va parler champagne et syndicalisme, puisque tout n'est pas... Ça fait des bulles un petit peu du côté de chez LVMH, des incertitudes. On va revenir sur la manifestation néo-nazie, le rassemblement du 9 mai qui a eu lieu à Paris. Donc, malgré une interdiction annoncée, finalement, elle a été annulée. Qu'est-ce que j'ai relevé d'autre aussi pour vous? On va parler des PFAS et de peut-être une solution pour en tout cas ne pas trop les ingérer dans le corps en mangeant bien des fibres. Et on va parler un petit peu CO2, construction automobile et un nouveau mouvement qui se crée en Catalogne, en Espagne, un mouvement copié sur celui des soulèvements de la terre. La semaine dernière, donc, je vous parlais de la manifestation qui était prévue pour le 9 mai, puisqu'elle est organisée par le comité du 9 mai, et la préfecture de police annonçait donc en début de semaine dernière son intention d'interdire ce comité du 9 mai, à savoir le défilé annuel parisien des néofascistes, qui chaque année défraie la chronique en organisant 1 millier de personnes dans les rues de la capitale. Et bien finalement, la justice a autorisé cette manifestation, tout en interdisant la contre-manifestation donc de contestation, une manifestation antifasciste prévue, elle, le même jour. On est donc quand même 80 ans après la chute du nazisme, hein, qui a été célébrée jeudi 8 mai partout en Europe. Eh bien, 2 jours après, les néofascistes défilaient dans les rues de Paris. La préfecture donc avait interdit cette manifestation, mais le tribunal administratif de Paris avait suspendu la mesure vendredi soir suite à un référé demandé par les organisateurs. Visiblement, le risque de trouble à l'ordre public n'a pas été retenu, sauf évidemment pour les personnes qui entendaient justement contester cette manifestation. C'est donc plus d'un millier de manifestants... de militants d'ultra-droite qui ont défilé samedi, donc on était plutôt le 10 mai, pardon, mais c'était pour le comité du 9 mai. Ce groupuscule donc néofasciste commémore avec cette manifestation la mort d'un militant d'extrême droite qui s'appelle Sébastien Desieux, qui est mort en 1994, accidentellement. C'était un militant de l'œuvre française, un groupuscule pétainiste et antisémite. Et lors d'une poursuite avec les forces de l'ordre suite à une manifestation convoquée contre l'impérialisme américain, il s'était réfugié dans un immeuble et sur les toits. Et il est donc mort dans la cour, dans l'arrière-cour de cet immeuble parisien. Ce samedi, donc encore, des militants d'ultra-droite, souvent vêtus de noir et le visage dissimulé, ont marché entre Port-Royal et la rue des Chartreux dans le 6e arrondissement, jusqu'à justement l'adresse où Sébastien Desieux avait trouvé la mort 31 ans auparavant. Cette manifestation était encadrée par un service d'ordre encagoulé, ce qui est pourtant interdit, surveillé par d'importants effectifs des forces de l'ordre. D'ailleurs, certains ont remarqué que eux aussi portaient une partie du visage masqué très souvent. Ce défilé s'est donc déroulé sans incident notable, hein, malgré quelques tirs de feux d'artifice par des contre-manifestants qui se sont approchés du cortège, mais qui ont été systématiquement repoussés par la police. On a même des vidéos de personnes a priori inoffensives qui hurlent juste quelques insultes devant le passage du défilé fasciste, qui se font malmener par la police. Arrivés rue des Chartreux, ces militants, donc, dont certains étaient venus d'Allemagne, d'Italie, de Hongrie ou encore même d'Espagne, se sont recueillis par petits groupes à proximité de l'immeuble d'où avait chuté ce militant. Ils ont notamment entonné à plusieurs reprises leur slogan « Europe, jeunesse, révolution », un slogan du GUD, Groupe Union Défense, qui a été dissous en juin 2024. De nombreux participants arboraient évidemment toute l'iconographie d'extrême droite, hein, des drapeaux de croix celtiques. Certains avaient des t-shirts évoquant l'iconographie nazie, ainsi que la mouvance hooligan. Quelques tatouages ont été vus, même si de très nombreux d'entre eux avaient des bas sur les avant-bras, pour justement cacher à la vue des photographes certainement des tatouages pas très jolis. Il y a noté que donc ils se sont réunis par petits groupes dans cette arrière-cour parisienne et que des journalistes ont pu accéder à des fenêtres de riverains et filmer donc ce qu'il s'y passait donc à l'abri des regards. Et là, on les voit en rang militaire, entonner des chants, faire des saluts nazis, donc des Eagle, en sortant un drapeau de croix, une croix celtique face au lieu de mort. Ils ont déposé donc quelques fleurs. Un défilé donc quasi militaire, des chansons qui évoquent des chansons de régiment. Et en avant de cette marche, une troupe de tambours, hein, des musiciens avec des looks inspirés, voire complètement copiés d'ailleurs sur ceux d'un rassemblement qui a eu lieu en 1936 en Allemagne. C'était les jeunesses hitlériennes, ils ont repeint tous leurs tambours exactement à la manière de ces jeunes nazis de 1936. Donc, année 1936, celle qui a un petit peu sacré, en tout cas consacré, l'aboutissement de la mainmise du parti nazi en Allemagne, officiellement donc sous le Troisième Reich. Pour ce qui est de l'interdiction du fait que le tribunal administratif a finalement donc maintenu la possibilité d'organiser cette manifestation, je vous le disais, il avait de l'autre côté maintenu son interdiction d'une manifestation antifasciste et antiraciste, ce qui avait été demandé par le préfet de police de la capitale, Laurent Nunez. Il avait argumenté que la contre-manifestation était justement déclarée sur le même parcours que la manif organisée par le comité du 9 mai, et donc visiblement premier arrivé, premier servi. À noter que la manifestation du comité du 9 mai a été déclarée donc en préfecture par Maïlys de Cibon. C'est le nom de cette militante néo-fasciste parisienne qui est étudiante à l'université de droit à Assas, responsable aussi du collectif d'extrême droite La Cocarde, qui se dit syndicat étudiant. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle est régulièrement intervenue sur les plateaux notamment de CNews pour dénoncer les mouvements étudiants. Elle fait elle aussi partie du groupuscule néofasciste parisien et suprémaciste blanc Luminis, qui est étroitement lié au groupe Union Défense GUD. Depuis 2024, si on continue sur le CV de cette petite Maïlys de Cibon, il faut savoir qu'elle est collaboratrice parlementaire de deux députés, à savoir Sophie Vaginet, membre de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, qui s'est rallié au Rassemblement National, et donc elle est aussi collaboratrice de Christian Girard, lui, au Rassemblement National. Elle est donc payée par l'équipe d'Éric Ciotti, et a accès au couloir de l'Assemblée Nationale d'un côté, et de l'autre côté, donc, par son engagement, on va dire, militant, au groupe fasciste organisateur de manifestations néo-nazies de l'autre. Le cas de cette jeune Maïlys de Cibon n'est d'ailleurs pas isolé, puisque toute une jeunesse néo-fasciste, souvent issue de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie pour son cas, eh bien ces jeunes bénéficient d'embauches souvent auprès de parlementaires de droite et d'extrême droite, avec donc accès direct aux plateaux télé et chaînes en continu. À noter qu'il n'y aura certainement pas de polémique médiatique concernant cette jeune femme pendant des semaines sur l'antisémitisme bien réel de ces héritiers d'Hitler qui peuplent donc les cabinets parlementaires du RN. On a hâte d'entendre la prochaine attaque pour antisémitisme sur les soutiens de la Palestine après tout ça. Ah tiens, on va aller voir en Allemagne justement ce qui s'y passe aussi. L'Allemagne qui doit non seulement se débattre avec elle aussi la montée de l'extrême droite, mais aussi visiblement composée avec des groupes complotistes nostalgiques du Premier Reich. Les autorités allemandes ont en effet annoncé aujourd'hui des perquisitions contre un réseau extrémiste. Ils ont prononcé la dissolution de la plus grande organisation de cette mouvance qui est accusée d'attaquer l'ordre démocratique libéral. Ce mouvement s'appelle Royaume d'Allemagne. Les perquisitions, elles ont donc été lancées dans 7 régions du pays. C'est une association officiellement. Et ce groupe donc compte environ 6000 partisans en Allemagne qui nient tout simplement l'existence de la République fédérale d'Allemagne et qui rejettent son système juridique. Voilà, eux aussi ne contractent pas, si vous avez la ref. L'association donc Royaume d'Allemagne, je vous épargne la prononciation en allemande, est interdite à compter de ce mardi, car ses objectifs et ses activités sont contraires à la législation pénale et vont à l'encontre de l'ordre constitutionnel et de l'idée de la compréhension entre les peuples, explique le ministère de l'Intérieur, qui explique aussi que l'interdiction va concerner aussi les nombreuses organisations qui sont affiliées à cette association. D'ailleurs, le parquet fédéral a aussi annoncé l'arrestation de 4 personnes, hein, dont 3 des membres fondateurs du groupe, qui depuis une dizaine d'années a mis en place des structures et des institutions pseudo-étatiques. Hein, ils ont vraiment créé leur état fictif parallèle, notamment en créant un système bancaire, des assurances, un bureau d'enregistrement avec des documents d'identité fictifs et une monnaie propre carrément. Ils ont poussé le jeu assez loin. Le ministère de l'Intérieur les qualifie d'extrémistes dangereux et donc Königreich Deutschland, je l'essaye quand même, fait partie de la mouvance allemande complotiste des Reichsbürger, ce qui veut dire les citoyens du Reich. Ils rejettent la légitimité de la République allemande moderne. Ils croient, eux, en la pérennité du Reich allemand d'avant la Première Guerre mondiale. On ne parle pas du Troisième Reich, sous la forme d'une monarchie. Plusieurs groupes de ces sympathisants ont décrété la création de leur propre mini-État. Ainsi, selon les services allemands du renseignement intérieur, cette mouvance du Reichsbürger comptait environ 23 000 membres en 2022, quand même. Et en son sein, donc, la petite bande du royaume d'Allemagne, hein, Königreich Deutschland, est en expansion depuis des années. La nouvelle coalition gouvernementale en Allemagne est entrée en fonction la semaine dernière. Elle est dirigée par le chancelier conservateur Friedrich Merz et elle doit donc aussi faire face à la progression des idéologies extrémistes de droite, puisque le parti d'extrême droite, l'AfD, est désormais la première force d'opposition à la Chambre des députés après avoir obtenu un score record aux législatives de février et tout en ayant été officiellement qualifié de parti d'extrême droite. Ce dimanche 11 mai à Montpellier, environ 500 personnes se sont réunies donc sur la Comédie dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale contre l'islamophobie, une journée décrétée suite au meurtre d'Aboubacar Cissé qui a eu lieu le vendredi 25 avril dans la commune de La Grand-Combe, notamment dans sa mosquée puisqu'il était fidèle de la mosquée de La Grand-Combe. De nombreuses interventions ont dénoncé le climat nauséabond de stigmatisation des musulmans qui est entretenu, selon eux, par la classe politique et médiatique. C'est par exemple Djoufelkit du collectif des musulmans de Montpellier qui s'exprime « Qui a nourri la haine, la peur de celui qui a commis cet acte terroriste ? L'islamophobie a une voix, un visage. » Tous les jours, on entend dans les journaux des mots comme islam, menace, submersion, civilisation. Ces mots deviennent des lois qui ciblent une partie de la population. Loi immigration, loi contre les séparatismes. Ici, la parole a préparé l'acte. Combien d'Aboubacar faudra-t-il avant qu'on dise stop à l'islamophobie ? On est dans un pays, ajoute-t-il, qui dissout des associations antiracistes au lieu de lutter contre le racisme. Il faisait là référence évidemment aux potentielles dissolutions du collectif antifasciste La Jeune Garde ou de l'association Urgence Palestine qui dénonce le génocide en cours par l'État d'Israël. Plusieurs dates ont été annoncées au cours de ce rassemblement. Hein. Le 15 mai, donc ce jeudi en début de soirée, sur la place de la préfecture, un hommage à la Nakba sera rendu et les morts des Palestiniens tués lors du génocide en cours seront lus. Cela sera fait en partenariat avec une quarantaine de villes en Europe qui réaliseront une action de même type au même moment. Et le samedi 17 mai, une grande manifestation de soutien à la Palestine s'élancera depuis le quartier de la Paillade jusqu'à la place de la Comédie. On part en Champagne et aussi à Paris, puisqu'il y avait une réunion entre les syndicalistes et les dirigeants du groupe LVMH. Ces syndicalistes sont donc arrivés plein de questions et sont repartis bredouille. C'est ce que nous explique en tout cas les colonnes du journal Basta. C'était mardi dernier, le 7 mai. Un rendez-vous donc s'est tenu avec des hauts cadres du groupe LVMH pour tenter d'en savoir plus sur des annonces de suppression d'emplois qui vont toucher Mouette et Nessie, qui est la branche vin et spiritueux du premier groupe de luxe au monde, hein, LVMH, qui appartient au milliardaire Bernard Arnault, un des hommes les plus riches du monde. Le 30 avril dernier, c'était la veille de la fête des travailleurs et des travailleuses, eh bien le groupe LVMH a en effet annoncé la suppression de 12% des effectifs de la branche Mouette Hennessy. Ça fait 1200 postes. Une annonce choc, donc, qui a été apprise au détour d'une simple vidéo de communication interne aux salariés. Une vidéo de 20 minutes pendant lesquelles Jean-Jacques Guillony et Alexandre Arnaud, qui sont PDG et directeur adjoint de Mouette Hennessy, sont interrogés sur leur vision stratégique par rapport à la marque. La vidéo s'intitule « Pensez demain ». Et la plupart des salariés ont donc découvert l'information dans la presse le lendemain, puisqu'ils n'avaient pas été informés en interne. C'est ce qu'explique par exemple Philippe Cotenet, le secrétaire général adjoint de la CGT Champagne. « Moi-même, je ne l'avais pas repéré, dit-il. Cette vidéo est en anglais, sous-titrée, donc plutôt pour les cadres. Et c'est seulement vers la fin, au bout de la 13e ou 14e minute de la vidéo, qu'ils annoncent leur volonté de réduire la voilure de 1200 personnes. » Alors depuis cette annonce, qui n'en était donc pas vraiment une, le climat de travail s'en est trouvé très impacté. Il y a beaucoup d'incompréhension, explique-t-il. Les gens attendent des réponses. Une peur s'est installée au sein des salariés, comme des cadres. Ils nous contactent sans cesse. Où auront lieu les suppressions et quand? Mais donc la CGT ne sait pas leur répondre. On aurait aimé, explique le syndicaliste, être informé avant, puisque c'est nous qui nous retrouvons en première ligne. Suite à cette réunion donc, qui a eu lieu là, pas beaucoup plus de réponses n'ont été avancées par la direction. Ce chiffre de 1200 pourtant ne sort pas du chapeau. Je présume qu'ils ont une feuille de route, qu'ils savent où ils vont aller, explique toujours Philippe Cotenet. Et aucune réponse ne l'aura pourtant été réellement apportée. Ils ont tenté de nous rassurer en nous disant que ces 1200 suppressions concernaient le monde entier, pas seulement la France, mais sans donner les directives et sans dire quel secteur d'activité serait touché, quelle entreprise, combien de postes en France, etc. Suite à donc cette incertitude et des réunions pas très fructueuses, un nouveau rendez-vous doit avoir lieu très prochainement, sans doute d'ici la fin du mois, avant le 2 juin, avec le PDG de Mouette Hennessy. Et quoi qu'il en soit, les syndicats vont déposer un droit d'alerte lors de leur prochain comité CSE central au mois de juin. C'est une procédure qui permet d'exiger des explications de la part de l'employeur. Et d'ailleurs, explique Philippe Cotenet, on leur a déjà dit qu'on serait prêt à monter à Paris s'il le faut. Et en effet, les ouvriers spécialisés envisagent d'intervenir lors d'une grande réunion qui est prévue ces 20 et 21 mai. On sera place Vendôme à Paris, sur le site même de Louis Vuitton. L'un des principaux axes de défense donc, du groupe LVMH, c'est de répéter que les 1200 suppressions ne seront pas des licenciements, mais juste des non-remplacements, qu'il n'y aura donc pas de plan social. Mais les syndicats restent méfiants et gardent notamment en mémoire un épisode très tragique pour eux de 1993, où un grand plan social avait touché plusieurs maisons de champagne, malgré des promesses faites en premier lieu d'une réduction en douce des coûts. Du côté syndical, donc, les inquiétudes montent quand on retombait de ces diminutions d'emploi sur la charge de travail qui serait non remplacée. Il y a de la pénibilité dans les vignobles, en production. Les rythmes ne sont plus les mêmes qu'avant, explique le syndicaliste CGT. Le plan donc, de licenciement, de ce fameux plan de 1993, avait été compensé donc, par l'accélération des rythmes de travail pour réaliser des métiers dits saisonniers. Hein. Dans la vigne, il y a la taille, le liage et pas mal d'opérations à faire tout au long de l'année. La cadence, normalement, c'était de 450 heures par hectare, contre 250 aujourd'hui, donc quasiment la moitié des heures pour faire le même boulot. Et du côté administratif de ces entreprises, le syndicaliste craint aussi des pressions supplémentaires, là où, dit-il, il existe déjà des risques psychosociaux identifiés. Toutes ces annonces arrivent en plus dans un climat social qui est déjà très compliqué au sein de la filière champagne, puisque les négociations salariales, notamment, qui ont lieu tous les ans, se sont ouvertes le 28 janvier à Reims et ont engendré des conflits. Du côté des employeurs, ont été proposées des augmentations d'à peine 1,1%, alors que l'intersyndicale donc refusait de signer l'accord. Elle exigeait, elle, 3,13% pour suivre au moins l'inflation. Puis finalement, elles sont descendues à 2,4%. On rappelle quand même que le chiffre d'affaires de la filière champagne dans son ensemble s'élevait à presque 6 milliards d'euros en 2024. Du côté donc, du groupe LVMH, on justifie la situation globale par des arguments financiers, évidemment. C'est la crise hein, pour eux. Le chiffre d'affaires des vins et spiritueux a baissé de 11% en 2024, puis de 9% au premier trimestre 2025. Cela est dû à une espèce de contexte post-Covid. Après trois années exceptionnelles, explique LVMH, la normalisation post-Covid de la demande de champagne et de cognac, puisque Hennessy, c'est une marque de cognac très prisée, tout cela s'est amorcé en 2023, et donc la normalisation, donc l'aplatissement, on va dire, de la demande, s'est poursuivi dans un contexte de ralentissement de consommation et aussi d'un marché de plus en plus difficile en Chine. En effet, suite au Covid, l'année 2022 a été celle de tous les records pour le champagne. Le groupe LVMH, à cette époque, a donc profité pour racheter des petites sociétés à droite à gauche. Mais, explique la CGT, on savait que certaines de ces entreprises n'étaient pas rentables et que ce n'était pas un modèle viable. D'ailleurs, la CGT avait à l'époque alerté sur la stratégie et cet enjeu de la viabilité, en questionnant cette augmentation aussi du prix moyen de vente des bouteilles, une augmentation rapide et surprenante, puisqu'en 4 ans, les prix des bouteilles ont augmenté en moyenne de 26%. Ça a permis tout ça de rentrer pas mal d'argent dans les caisses et une forte hausse des dividendes pour les actionnaires. En gros, la filière a surfé sur une explosion des ventes avant de rétro-pédaler, explique le syndicaliste, qui estime qu'aujourd'hui, que la réduction des coûts d'exploitation donc du côté de la main-d'œuvre pourrait ne pas peser uniquement sur le personnel, mais aussi puiser ailleurs, notamment, explique-t-il, du côté d'un recours aux prestataires qui a de plus en plus lieu, qui a été épinglé d'ailleurs ces dernières années par la CGT Champagne pour avoir engendré une dégradation encore de leurs conditions de travail.
La folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Allez, j'ai pas arrêté ces dernières semaines et mois de vous faire flipper avec les PFAS, les polluants éternels, et voici une info qui peut-être pourrait être utile et redonner un petit peu d'espoir dans cette avalanche de nouvelles qui sont jamais très très réjouissantes. Eh bien, c'est que manger des fibres pourrait contribuer à réduire les quantités de PFAS dans notre corps. C'est en tout cas ce que suggère une étude pilote qui a été publiée le 15 mars dans une revue scientifique à comité de lecture Environmental Health qui a été repérée récemment donc, par le journal Le Guardian. Alors si l'usage des PFAS sera bien interdit dans plusieurs secteurs en France à partir du 1er janvier 2026, d'ici là, ces polluants qu'on dit éternels, car ils peuvent persister pendant des milliers d'années dans l'environnement et des années dans notre corps, restent omniprésents. Le programme de biosurveillance Esteban a notamment montré qu'ils étaient détectables dans le sang de toute la population française. Des scientifiques en ont même trouvé jusque dans les tissus des ours polaires du Groenland, les pauvres qui n'ont rien demandé. Donc si on revient à cette étude, ce sont des Canadiens qui l'ont réalisée, et ils ont profité d'échantillons de sérum, des échantillons donc sériques, qui ont été collectés par rapport à des études sur le cholestérol, et ils en ont profité pour évaluer l'effet de la consommation de fibres. Donc les fibres, c'est ce qu'il y a dans les fruits, les légumes, les légumineuses, etc. C'était une étude sur le taux de cholestérol, mais eux en ont profité pour regarder l'exposition aux PFAS. Eh bien, le phénomène que donc les fibres réduisent aussi l'exposition aux PFAS pourrait s'expliquer par le fait que certaines fibres alimentaires forment un gel dans l'intestin qui diminue l'absorption et facilite l'élimination des acides biliaires. Ça, c'est dans le fonctionnement de la digestion normale. Et ces acides biliaires sont chimiquement similaires aux PFAS. Donc les fibres alimentaires pourraient également favoriser l'élimination de ces polluants qui ne passeraient pas la barrière intestinale et se retrouveraient dans notre sang. Bon, on en est encore au stade de l'expérimentation, mais les résultats sont malgré tout prometteurs, explique Jennifer Schlesinger, qui est co-autrice de cet article, chercheuse à l'université de Boston. Les résultats devront malgré tout être confirmés par des études sur un échantillon plus important, puisque là c'était seulement 72 patients qui étaient étudiés, et le tout sur une période d'intervention aussi plus longue, puisque cette étude a été menée seulement sur un mois. Mais en tout cas, les résultats sont encourageants, et ils vont aussi cibler un peu plus les apports en fibres pour avoir un peu des chiffres liés à la consommation quotidienne de notre alimentation. Donc une étude plus large est déjà en cours pour mieux déterminer l'efficacité de ces fibres dans le processus d'excrétion des PFAS, et on attend avec impatience les résultats. Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump a annoncé la semaine dernière, le 8 mai, qu'elle allait tout simplement arrêter d'alimenter la base de données de référence qui recense les plus grosses catastrophes climatiques. Donc voilà, les grandes catastrophes climatiques mondiales, on ne veut plus en entendre parler aux États-Unis. Ces données de référence, ça c'est les National Centers for Environmental Information, NCEI. Elles dépendent de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique et elles ont été créées en 1980. Ça permet notamment aux chercheurs, aux médias ou au public de trouver des informations sur, par exemple, des feux de forêt, des tempêtes de grêle, des inondations, des tornades, etc. Et bien donc, ces données ne seront plus mises à jour les prochaines années. Malgré tout, les années précédentes resteront archivées. Cette décision, ben vous le savez, résulte de la politique climato-sceptique du président américain, états-unien, pardon, et des réductions du financement qui a été acté contre, justement, cette agence d'observation océanique et atmosphérique. Récemment, cette NOAA a donc dû se séparer d'environ 20% de ses employés et son budget de fonctionnement a été menacé de coupes massives par la Maison-Blanche. C'est pourtant un secteur dans lequel il y aurait de quoi faire, hein, puisqu'en 1980 et 2024, 403 catastrophes naturelles ont été comptées aux États-Unis, causant plus de 17 000 morts et coûtant plus de environ 3 000 milliards de dollars au total. Rien que l'année dernière, en 2024, le pays a connu 27 catastrophes pour au moins 1 milliard de dollars de dégâts, ce qui le place au niveau mondial au deuxième rang pour le nombre de catastrophes ayant coûté plus d'un milliard de dollars en une seule année. Et à côté de ça, en Europe, l'Union européenne assouplit les règles d'émission de dioxyde de carbone des constructeurs automobiles. Ce sont les députés européens qui ont validé le 8 mai dernier une modification des normes de performance en matière de CO2 pour les entreprises qui construisent des voitures et des camionnettes neuves. Ces émissions carbone ne seront en effet plus calculées sur une année, mais sur 3 ans, de 2025 à 2027. Une manière donc qui permettra aux constructeurs d'éviter les amendes qui sont prévues pour ce 31 décembre 2025, dans le cas où ils auraient trop pollué pendant l'année écoulée, et visiblement c'est une inquiétude pour eux. Le Parlement européen justifie cette décision comme un soutien au secteur automobile européen qui subit les effets des changements technologiques et de la concurrence qui augmente. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan de soutien à l'automobile qui a été annoncé début mars par la Commission européenne. Et donc ce changement du mode de calcul, hein, sur 3 ans et pas un an, est pour l'Association européenne des constructeurs automobiles un pas dans la bonne direction. On ne sait pas quelle est la bonne direction pour 458 députés européens ont voté pour ce texte, 101 contre, 14 se sont abstenus. Le texte était majoritairement soutenu par la droite du Parti populaire européen, le groupe socialiste et démocrate et les centristes et libéraux de Renew. Les écologistes, eux, dénoncent un recul dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ils ont voté plutôt contre, vous l'aurez compris. Et l'eurodéputé écologiste belge Saskia Brikmont accuse cet assouplissement de retarder la commercialisation de véhicules électriques à des prix abordables qui sont indispensables. Et on part et on termine en Catalogne, donc en Espagne, au nord de l'Espagne, pas loin de la frontière française, où un grand rassemblement a eu lieu avec les Revoltes de la Terra. C'est l'équivalent donc, des soulèvements de la Terre, un groupe qui vient de se former, qui s'est mobilisé là contre une usine de composants de batteries, justement des batteries pour équiper les voitures électriques. Ça s'est passé du 2 au 4 mai. C'était donc le premier événement estampillé Revoltes de la Terra. Un millier de personnes se sont rassemblées au village de Montroig del Camp, je crois qu'on dit comme ça à peu près. On est en Catalogne, donc c'est du catalan. Deux objectifs pour ce rassemblement, lutter contre un projet de méga usine de composants de batteries et légitimer et fédérer donc autour de ce mouvement nouvellement créé. Au programme du week-end, des manifestations, des actions symboliques, des tables rondes, des conférences et des concerts. Revoltes de la Terra, c'est donc un mouvement écologiste radical qui a été créé il y a 2 ans en Catalogne, fortement inspiré des soulèvements de la Terre présents en France, avec une revendication clairement affiliée de l'inspiration, que ce soit par le mode d'action, la volonté de renouvellement des pratiques militantes ou encore dans la communication avec un logo similaire. C'est vraiment une exportation de la marque Soulèvement de la Terre, j'ai envie de dire. Ce premier rassemblement, en tout cas sous forme de pari, a été réussi, hein, puisque l'appel a notamment été signé par 4 organisations, donc Revoltes de la Terra, mais aussi un collectif de lutte locale, Sauvons Montreuil, et surtout 2 organisations paysannes, le syndicat agricole majoritaire en Catalogne, Union de Pagesos, je crois, l'Union des Paysans, et Revolta Paesa, le mouvement agricole qui a été créé lui en 2024 suite aux manifestations agricoles qui ont secoué la région. En effet, ce sont les paysans qui sont en première ligne des conséquences délétères de ce projet de méga-usine. Le projet, c'est de voir créer donc un complexe industriel qui doit s'attendre d'abord sur 44 hectares, ça c'est l'usine elle-même, et il faudra y rajouter 96 hectares pour construire une centrale de production électrique photovoltaïque qui subviendra aux besoins de l'usine. La plupart de ces 140 hectares donc, sont aujourd'hui des terres agricoles ou naturelles, et donc en plus de la question de la disparition de ces hectares agricoles et de l'artificialisation des sols, l'autre question qui est très préoccupante, c'est celle de l'eau. En effet, selon les opposants au projet, l'usine consommerait 2000 mètres cubes d'eau par jour dans une zone qui souffre déjà fortement de sécheresse. Un représentant de l'Union des Paysans dénonce cette injustice. Il y a des zones, dit-il, où les noisetiers ont été déracinés. Ici, on donne un robinet à toute entreprise qui vient, comme s'il n'y avait pas de pénurie d'eau. D'autant plus que cette usine se trouvera pile sur une des plus grandes nappes phréatiques de la région. Les opposants craignent donc en plus une pollution en métaux lourds de cette ressource vitale. Pour ce qui est du projet, c'est la multinationale sud-coréenne Lotte Chemical Corporation, avec sa filiale Lotte Energy Materials, qui porte ce projet. Donc l'idée, c'est de produire des feuilles de cuivre, qui sont un élément indispensable à la fabrication des batteries, notamment pour les voitures électriques et tous les autres appareils équipés de batteries. Cette dernière, donc l'entreprise, met sur la table 400 millions d'euros et les pouvoirs publics, à savoir le gouvernement catalan, le ministère de l'Industrie et l'Union européenne, eux vont soutenir le projet en apportant des subventions à hauteur de 70 millions d'euros. C'est un des aspects qui pose problème à 2 co-signataires d'une tribune, Julia Marti Comas et Claudia Custodio. Cette tribune dénonce entre autres l'implication donc d'une des filiales de l'entreprise sud-coréenne, Lotte, dans des crimes de guerre en Birmanie contre les Rohingyas, ou encore la collaboration de l'entreprise avec POSCO, une autre entreprise sidérurgique qui, elle, accusée de déplacer des peuples autochtones du côté de l'Argentine. Plus généralement, donc, ce projet industriel s'inscrit dans une dynamique européenne de course au leadership économique pour donc une certaine vision de la transition écologique. Les opposants contestent justement le fond de ce projet qui ne tient compte ni des individus ni des écosystèmes. Pour ce qui est des travaux de la méga centrale, ça devrait normalement débuter fin 2025 avec un démarrage pour 2027. Mais d'ici là, 2 recours juridiques sont encore en cours. Et donc, c'est pas si les travaux n'ont donc pas commencé. 500 emplois, peut-être, seraient eux attendus à terme pour cette usine.
Laisse béton.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Et on se donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. Et ouais, ce jeudi-là, il n'est pas férié, c'est dommage. On commençait un petit peu à s'habituer. Allez, portez-vous bien et à bientôt.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, bon, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas. Interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.